expliquée par la table ronde précédente et par le film, notamment par Lionel Ragot et Bettina Laville, à savoir que infléchir les émissions de gaz à effet de serre pour se mettre en ligne avec les scénarios du GIEC est un problème à la fois économique et un problème politique. C'est un problème qui concerne l'ensemble des pays du monde, des pays qui ont des niveaux de développement très hétérogènes, hein, et je rappelle très brièvement que les deux premiers émetteurs sont la Chine et les États-Unis. Donc on voit bien les questions par rapport au développement. C'est un sujet qui concerne beaucoup de secteurs, hein, l'électricité, l'énergie d'abord, mais aussi l'agriculture et la forêt, l'industrie, et aussi les villes au travers des émissions des transports et des bâtiments notamment. Comme vous le savez, nous sommes maintenant à moins d'un mois de la conférence de Copenhague et tout le monde a l'intuition qu'il sera évidemment difficile à Copenhague d'établir un cadre d'action qui permette d'établir un cadre qui fonctionne pour au moins jusqu'en 2020 et peut-être au-delà, et d'avoir un cadre d'action qui permette de stimuler des actions précoces. Donc, à quelques semaines de la négociation, l'objet de cette session qui va réunir un panel très riche, puisque nous sommes 2, 4, 6, 8, 9 autour de la table, ce qui nécessitera sans doute d'essayer de trouver un moyen de concision des interventions pour que vous puissiez aussi participer, aura deux buts finalement, d'essayer de donner une vision globale de ce qui se joue à Copenhague et en montrant comment ces enjeux se déclinent en contraintes et en opportunités pour les acteurs économiques. Et d'autre part, dans cette perspective, d'essayer de réfléchir sur ce qu'est l'apport des économistes à cette négociation dans un contexte où doivent interagir des décideurs politiques, des acteurs économiques, des experts, des chercheurs en économie, mais aussi des scientifiques, parce que, et ça je crois que c'était très clair quand vous avez par exemple en tête le film d'Al Gore, un élément déterminant et qui est un problème pour, par rapport à l'action économique traditionnelle, c'est que ce sujet conserve des dimensions d'incertitude et des données scientifiques qui sont absolument essentielles pour définir l'action contre le risque climatique. Donc je vous propose que... Alors ce panel donc, est composé de Jean-Paul Bout, qui est directeur de la stratégie à EDF, de Gérard Collomb, qui est maire de Lyon, de Jean-Charles Ourcade, qui est directeur d'un centre qui s'appelle le CIRED, E&D, voulant dire environnement et développement. C'est un centre qui est associé notamment à l'École des Ponts et ParisTech. On vient de m'effacer... Mais je connais suffisamment Hervé Letreux, donc, qui est de l'Institut Pierre-Simon Laplace. L'Institut Pierre-Simon Laplace coordonnant ou réunissant les centres de recherche en climatologie en France, enfin les grands centres en région parisienne notamment. René Passé, qui sera notre grand témoin, qui est professeur émérite à Paris 1 et qui est, comme l'a rappelé Bettina Laville, une réflexion précurseur sur l'économie du développement durable et justement sur les sujets de transdisciplinarité. François Salanier, qui est de Toulouse, hein, du Centre d'économie de Toulouse, qui un centre phare en économie théorique qui associe trois laboratoires, dont un justement en économie de l'environnement qu'il dirige. Enfin, Jean-Pierre Sicard, qui est directeur de tout ce qui concerne les sujets climatiques à la Caisse des dépôts et consignations. Et enfin, Laurent Stefanini, qui est ambassadeur à l'environnement. En ce qui me concerne, je suis donc délégué du Conseil économique du développement durable et par ailleurs, je m'occupe d'animer la chaire développement durable polytechnique qui est financée justement par EDF. Par ailleurs, nous aurons aussi une intervention enregistrée de Jean Tirole, puisque son rapport au Premier ministre va nous servir d'élément de réflexion. Donc je vous propose pour commencer qu'on plante tout de suite le décor en demandant au fond à Hervé Letreux brièvement de nous dire quelle est l'appréciation scientifique ou l'appréhension scientifique qu'on a sur le sujet climatique. Et je demanderai tout de suite après à Laurent Stefanini de nous donner le décor sur la négociation climatique à quelques semaines de Copenhague sur les enjeux. Donc je vous propose sans perdre de temps de demander à Hervé d'essayer de nous dire en quelques mots comment on aborde ce sujet, enfin de quoi on dispose. Et où en sont les travaux du GIEC? Merci bien.
Donc, merci. Donc, ce que je voudrais faire, puisque c'est un sujet qui est vaste et que j'ai bien compris qu'on est soumis à un devoir de concision, c'est essayer de distinguer deux ou trois éléments principaux dans ce dossier climatique. Premier qui concerne ces échelles de temps très particulières. On est face à un problème qui est nouveau, par rapport à tous les problèmes environnementaux qui se sont posés par ailleurs, parce qu'il vient rompre un équilibre naturel ancien. Donc c'est ce que je montre sur cette diapositive. Et on le verra parce qu'il se pose à la fois comme un processus émergent, dont on voit juste les débuts, mais qui est en train de croître très rapidement et qui nous pose un problème finalement d'urgence, mais pas au sens où on l'entend d'habitude. Alors, d'abord, par rapport à cette rupture des équilibres naturels, vous avez ici le niveau de CO2, le niveau de méthane, le niveau d'oxyde d'azote dans l'atmosphère. Et les diagrammes sont des diagrammes sur 10 000 ans. Alors, 10 000 ans, c'est le dernier interglaciaire, celui dans lequel on vit encore. Et c'est à une période dans laquelle se sont développées nos civilisations, qui est une période remarquablement stable du système climatique. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de variations climatiques d'amplitude modérée qui ont souvent eu des effets importants, mais qui se superposent à cette période de stabilité de 10 000 ans. Mais quand vous voyez le niveau de CO2, par exemple, pendant 10 000 ans, il est resté entre 270 et 280 parties par million. L'unité importe peu. Et la période pré-industrielle se clôt par cette augmentation brutale des gaz à effet de serre, 30% en plus pour le CO2, multiplication par 2 ou 3 du méthane, 20% en plus pour l'oxyde nitreux. Alors maintenant, quand on regarde un peu plus en détail, et c'est le rôle de ces petits diagrammes ici agrandis, qui montrent les deux derniers siècles, on voit qu'en fait, quand on dit que cette augmentation du CO2 elle a été brutale, elle a été brutale en fait surtout depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Vous avez ici un diagramme qui vous montre les émissions de CO2 dues à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel pendant le XXe siècle. Et ce que vous voyez, c'est que pendant le XXe siècle, on a, à partir de 1950, une rupture absolument énorme de nos modes de consommation de l'énergie. Alors, en bleu, c'est les pays occidentaux, sont ceux qui ont contribué en premier à cette augmentation. Le gris clair, c'est le bloc soviétique, l'ancien bloc soviétique, et le gris foncé, c'est le bloc des pays émergents qui maintenant, le diagramme s'arrête en 1995, est devenu pratiquement aussi grand que celui des pays occidentaux. Mais c'est vraiment en 1950 que les choses ont commencé. C'est très important par rapport au débat qui quelquefois agite les problèmes, enfin agite les médias sur ces problèmes de changement climatique. Le moment où on a cessé d'être dans un monde durable, c'est-à-dire où les émissions sont des émissions annuelles ici, donc on émettait 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an en 1950, et au jour d'aujourd'hui, on est bien au-delà de ce diagramme, puisqu'on est à 9 ou 10, en comptant la partie de la déforestation. Et le moment où on a cessé d'être durable, c'est les années 70. On a passé le seuil des puits de carbone naturel, et le moment où cette augmentation se traduit climatiquement, c'est le début des années 90, c'est donc quelque chose de très récent. On est face à un problème nouveau par la rupture violente qu'il implique, et nouveau par les manifestations très récentes au travers desquelles on peut commencer à l'observer. Alors, juste en termes de, pour donner quelques chiffres un peu plus récents, vous avez ici les émissions de quelques grands pays. Ce que vous voyez, c'est que la Chine et les États-Unis émettent maintenant à peu près à égalité en termes de... C'est les flèches jaunes. Si vous divisez par le nombre d'habitants, vous obtenez un chiffre qui est un chiffre important. Le seuil à ne pas dépasser, ce serait une demi-tonne par habitant actuellement, si on veut diviser les émissions possibles écologiquement par le nombre d'habitants de la planète. Vous voyez que pour les États-Unis, il y a un facteur plus de 10. Pour la Chine, il y a déjà un facteur 2, deux fois trop d'émissions si on veut s'en tenir à ce seuil, qui est ce seuil de durabilité du cycle du carbone. Et pour les pays européens, un facteur 4. Donc on est déjà rentré maintenant dans un autre univers qui nous oblige à prendre des mesures. Alors maintenant, pour essayer de savoir quelles mesures on doit prendre, quel type d'effort on doit faire, il faut utiliser des projections vers le futur. Le rôle des modèles dans nos disciplines est essentiel. C'est grâce aux modèles qu'on essaie de se projeter dans le futur. Alors ces modèles sont des modèles qui sont appuyés sur des principes physiques. Il y a souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est difficile en quelques mots de le dire, mais c'est des modèles, c'est les mêmes modèles qui servent aussi pour la météo. Il y a un lien aux données qui est très fort en termes de validation, mais on s'appuie sur des principes physiques. Et le premier principe de prévision, dans notre cas, c'est tient un problème simple, c'est l'inertie des gaz à effet de serre. Le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, il y reste 100 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, il en reste plus de la moitié. Donc tout ça s'accumule dans l'atmosphère. On peut essayer ensuite de prévoir ce qui va se produire. Alors le GIEC, le fameux GIEC, a fait des prévisions basées sur des évolutions sans prise en compte de négociations type Copenhague. Et ce que vous voyez ici, c'est le type de réchauffement qui en résulte, qui va de 2 à 6 degrés. Donc c'est des chiffres très importants. Ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, donc dans le sens contraire, c'est 5 à 6 degrés de réchauffement depuis cet âge glaciaire. Donc là, on rajouterait encore quelque chose qui est presque équivalent en termes de changement climatique par rapport à cela. Alors, deux ou trois idées encore, les gaz à effet de serre sont injectés dans l'atmosphère et sont mélangés, ce qui veut dire qu'au-dessus de nos têtes, par exemple, on a 5% de gaz à effet de serre français et puis 95% de gaz à effet de serre qui viennent d'ailleurs. Donc le problème, il est réellement global, partout. Mais ce problème global, il touche les gens de manière différenciée. Alors vous avez ici des cartes de réchauffement qui sont issues de modèles. Il y avait deux idées dans ce diagramme. D'abord, regardez la distribution géographique et vous voyez que les régions polaires, par exemple, sont des régions qui sont beaucoup plus touchées. Et c'est bien pour ça que c'est là qu'on voit les premiers signes du changement climatique actuellement. L'autre idée, c'était de regarder pour les échéances 2020-2029 ou 2090-99 la part d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. De bas en haut, de bas en haut, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. 2020-2029, ça fait très peu d'effet, parce qu'on est déjà engagé dans un système où l'inertie du climat, le temps que ça prend à se réchauffer, donc à se refroidir, le stockage des gaz à effet de serre, fait qu'en 10-20 ans, c'est comme un gros paquebot, on n'arrive pas à le freiner. Donc on est engagé dans un système qu'on ne pourra pas ralentir d'un coup. Par contre, on voit que les effets en fin de siècle sont très importants et qu'on arrive à être dans un monde très, très différent. Alors, c'est un diagramme très compliqué, je veux pas mais c'est juste pour dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont essayé de regarder justement si c'est important ce réchauffement. Et on est arrivé dans les dernières années à confirmer un seuil qui est là depuis quelques années dans le diagnostic scientifique, qui est de dire qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés de réchauffement. Et 2 degrés de réchauffement, au-delà de ça, on voit les écosystèmes, on voit toute une série de systèmes hydrologiques, la pression sur le littoral, toutes ces études qui sont résumées ici par des barres qui vous montrent que c'est grave au-delà de 2 degrés. 2 degrés, c'est ce qu'on voit en bas ici. Et on voit que quand c'est plus que 2 degrés, on a des effets importants. C'est ce que remarque pour toute une série d'études ce diagramme qui a été là aussi le résumé d'un des rapports du GIEC. Ben, ça nous donne un seuil de danger. Et ce seuil de danger, il est très proche. Si on ne fait rien, 2 degrés de réchauffement, c'est 2050 à peu près. On a vu que ce gros paquebot de la planète Terre, il prend quelques dizaines d'années pour ralentir. Ce qui veut dire que si on ne veut pas dépasser ce seuil de 2 degrés, ben c'est maintenant qu'il faut agir. Et ce sentiment d'urgence par rapport à ces échéances qui n'étaient pas tout à fait comprises comme cela il y a encore quelques années, il a beaucoup grandi. Alors, au niveau de la science, on ne sait pas tout. Alors, on est sûr d'une chose, les effets commencent, et commencent seulement. Mais quand vous voyez le réchauffement déjà mesuré, ça c'est une carte qui montre la différence entre les 15 dernières années et les 30 années d'après-guerre, on a une ressemblance étonnante entre ce qui a été prévu par les modèles il y a déjà un certain temps, et ce qu'on commence à voir apparaître comme signal qui se superpose à la variabilité naturelle. Donc le processus commence, il va croître rapidement. Je vais montrer un dernier diagramme, je m'arrêterai là-dessus pour ne pas dépasser mon temps en termes de diagramme, et je ferai encore un commentaire. Mais vous avez ici une reconstitution des températures du XXe siècle qui a été faite par des modèles. Donc c'est une sorte de calcul a posteriori de ce que devrait être le XXe siècle à partir de ces modèles physiques qui prennent en compte des processus physiques. Et vous avez une courbe bleue, un ensemble de courbes bleues qui montre ce qui se passerait, ce qui se serait passé si on n'avait pas eu les gaz à effet de serre. On ne voit pas bien, mais c'est tout ça, c'est le XXe siècle. En rose, c'est si on prend en compte les gaz à effet de serre. Et ce que vous voyez, c'est que la séparation se fait dans les 20 dernières années. Mais il n'y a aucun doute que le chemin rose correspond à ce qui est actuellement suivi par la nature, qui est la courbe noire. Donc on voit qu'on a de plus en plus de preuves maintenant que ce problème il y a beaucoup de paramètres qu'on pourrait regarder, la banquise, les glaciers, la hauteur de la tropopause, on a des preuves maintenant que le changement climatique est en train de commencer. Alors bien sûr, il se mélange à tout un ensemble de fluctuations naturelles du climat, mais c'est un processus qui maintenant va croître, selon toutes les indications qu'on peut avoir, et va croître rapidement et nous poser ce problème d'urgence, qui est une urgence d'un type nouveau, puisque c'est une urgence à l'échelle des décennies, mais qui nous impose d'agir maintenant. Et c'est le défi de Copenhague, de mettre en place donc, les mesures qu'il faut. Je pense que bon, ça sera l'exposé suivant, mais dans un contexte, vous voyez aussi, où les dommages sont très différenciés. En gros, le dommage thermique est le plus fort dans les régions polaires, je l'ai montré. Le dommage hydrique, il est au contraire beaucoup plus fort dans les régions tropicales. Il y a une inégalité en termes de vulnérabilité climatique qui est aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais qui est aussi une des grandes marques du dossier climatique.
Merci beaucoup, à la fois pour la concision et la pédagogie. Donc, on a un paquebot, mais on n'a pas de capitaine. Je crois que c'est ça qu'il faut maintenant que nous explique Laurent Stefanini. Et donc, comment on fait ? Donc là, on va passer des 10 000 ans ou 3 semaines. De quoi on traite et comment on essaye d'infléchir un peu la trajectoire du paquebot ? Merci.
Oui, merci Dominique. Donc, je suis l'ambassadeur pour les questions d'environnement. Il y a un autre négociateur, et je dirais même un négociateur principal, qui est Brice Lalonde, qui est l'ambassadeur pour le changement climatique. Mais je m'occupe d'un certain nombre d'autres négociations, et évidemment de la négociation climat aussi, parce que c'est actuellement la négociation mère. Alors, on ne part pas de rien. Ça fait à peu près 20 ans que les pouvoirs publics à travers le monde s'intéressent au sujet. Le rapport Brundtland, la réunion de Rio de Janeiro ont abouti à l'élaboration d'une convention il y a déjà 17 ans. Et d'ailleurs, le président du comité de négociation était un Français, Jean Ripert. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que la France a toujours été à l'avant-garde du combat international dans ce domaine. On a deux textes qui s'imposent à nous, sur lesquels on construit, on ne part pas de rien. Ce texte, donc, c'est la Convention climat de juin 1992, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique, qui prévoit en particulier dans son article 2, et cet article 2 s'impose à tous les États partis à cette convention, y compris les États-Unis. Il y a un petit peu plus de 192 États partis, donc on peut dire que c'est une convention universelle. Et cet article 2 qui s'impose, qui est une loi internationale, prévoit que l'on doit stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc ça s'impose à tout le monde. Mais évidemment, cet objectif de stabilisation, il faut le mettre en œuvre et assez rapidement, conférence des parties après conférence des parties, c'est-à-dire réunion annuelle de l'ensemble des États partis à la Convention, celle de Copenhague dans quelques semaines sera la 15e, eh bien, on a cherché à mettre en œuvre des dispositions précises avec une étape essentielle qui est le protocole de Kyoto en 1997, avec la troisième conférence des parties, qui prévoit pour les pays de l'annexe 1, et j'y reviendrai, une réduction de 5,2% de leurs émissions en 2008-2012 par rapport au niveau de 1990, puisque la référence pour la convention, qui est notre constitution suprême, c'est 1990. Avec un système donc qui prévoit un ensemble de droits à émission et d'échanges de droits à émission. Je veux rappeler ça pour vous dire que voilà ce qui nous lie en tant que France et de fait la France respectera ses engagements et même ira au-delà puisque nous avons des émissions qui sont inférieures de 5,6% actuellement au plafond qui a été fixé par Kyoto pour 2008. Nous avons réduit nos émissions en 2006 de 2,2%, nous les avons réduites en 2007 de 2%, et je pense que d'ici peu de temps, nous aurons les chiffres pour 2008 qui nous permettra de dire que nous respectons les engagements internationaux que nous signons. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ce système imaginé il y a 20 ans, développé depuis la fin des années 90, aujourd'hui est un petit peu en panne? Bon. Parce qu'il s'est engagé dans une différenciation qui était évidente au moment de la négociation de la Convention entre les pays de l'annexe 1 et les pays de l'annexe 2. Les pays de l'annexe 1, ce sont grosso modo les pays de l'OCDE, qui au moment de la négociation représentaient 80% des émissions, et donc on considérait que c'était sur eux qu'il fallait faire peser l'effort, et que les autres pays, c'est-à-dire 80% de la planète, mais 20% des émissions, suivraient, et que c'était un problème d'aide au développement. Or, évidemment, depuis, on est dans une situation tout à fait différente. On est dans une situation où ces pays de l'OCDE représentent moins de 50% des émissions et où tout ce que nous avons pu faire en termes d'efforts a été, et au-delà, bien compensé par les pays du Sud. Donc la difficulté de la négociation aujourd'hui, c'est d'imposer à des pays dont, au départ, nous avons dit « Vous êtes exempts, faites au mieux, essayez de nous suivre, on vous aidera à nous suivre, mais enfin vous n'êtes pas le problème », de les mettre dans la négociation. On s'y emploie depuis quelque temps, on s'y emploie en particulier depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis qu'à la l'antéprécédente conférence des parties, il y a une conférence des parties chaque année, donc à la conférence des parties de Bali, on a été à la tête d'un mouvement qui a abouti à une feuille de route en définissant 4 principaux thèmes de négociation, donc ça c'était il y a 2 ans, décembre 2007, sur l'atténuation, l'adaptation, les transferts de technologie et le financement. L'année suivante, nous avons eu la présidence de l'Union européenne et nous avons été très actifs sur ce sujet de la lutte contre le changement climatique, avec en particulier l'adoption du paquet énergie-climat qui nous permet, si je peux dire, en interne au sein de l'Union européenne, des 27 pays membres de l'Union, d'avoir une, non pas tant une position de négociation unique, mais tout au moins une situation antérieure à la négociation unique. Nous avons adopté donc 4 directives, je vous le rappelle, celle sur la directive ETS, sur les régimes d'échange d'émissions, la directive donc, qui porte principalement sur le secteur industriel, la directive sur hors ETS, sur le partage de l'effort, qui porte sur les transports, le bâtiment, l'agriculture, etc., une directive sur la capture et le stockage du carbone, et une directive sur les énergies renouvelables, tout ça pour mettre en place un objectif qui se décline par plusieurs 20%, qui est un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne de au moins 20% en 2020 par rapport à 90. Deuxième objectif, une amélioration de 20% de notre efficacité énergétique. Et enfin, un encouragement à avoir 20% de notre corbeille énergétique, en quelque sorte, qui est composée d'énergie renouvelable. Donc nous sommes, si je peux dire, en ordre de bataille, et nous sommes, encore une fois, comme la France dans le cadre de la mise en œuvre de Kyoto 97, nous sommes en quelque sorte exemplaires. Cependant, ça ne suffira pas, parce que nous ne représentons que 15-16% des émissions de gaz à effet de serre, même si nous représentons à 27 près du tiers du produit intérieur brut mondial, c'est dire si nous sommes en avance sur le reste du monde, et comment peser sur la négociation. Alors, on le fait en essayant, évidemment, de mener un travail d'explication, en étant conscient que ces derniers mois, il y a eu, en quelque sorte, une prise de conscience très grande qui fait que, par rapport à 2007, le contexte international est plus favorable à des avancées. Mais, dans le même temps, que ce soit du côté des grands industrialisés, comme les États-Unis, mais également le Canada et l'Australie, qui au fond ont perdu 15 ans. Pendant que nous faisions qu'à un quart, eh bien eux, ils ont quand même, disons-le, perdu au moins une bonne dizaine d'années. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils remettent en cause la date de 1990 pour, comme date de référence, parce qu'ils veulent effacer d'un coup simple les 15 années perdues. Les industrialisés ne sont pas prêts à faire autant que nous et les pays émergents rentrent dans un dialogue mais ne vont pas beaucoup au-delà de ce que de l'affirmation d'intention. Bon, les étapes cette année ont été évidemment le sommet du G8 à L'Aquila, les différents sommets dont le sommet du G20 à Pittsburgh. Mais alors que nous sommes à moins d'un mois de Copenhague, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons abandonné tout espoir d'avoir un protocole contraignant. Nous espérions encore, il y a quelques mois, avoir un protocole de Copenhague type protocole de Kyoto, juridiquement contraignant, et que la seule chose que nous pourrons obtenir, c'est un accord politique. Cet accord politique, nous le voyons autour de 5 idées majeures. D'abord, que la nature des engagements doit varier en fonction des pays, mais que tous doivent en prendre. Deuxièmement, qu'il faut penser aux plus pauvres, d'où ce plan justice-climat que nous lançons, avec une volonté ces dernières semaines de beaucoup mettre en valeur les pays africains et les pays insulaires les moins développés. Que la forêt et le stockage de carbone dans les forêts est un élément important. Que nous avons besoin d'un organisme de suivi permanent, d'où l'Organisation mondiale pour l'environnement, et qu'enfin, il faut mettre en place les financements adaptés. Voilà, en quelque sorte, les cadres pour nous de l'accord politique. Cet accord politique, vous le comprenez, n'étant au fond qu'un engagement à poursuivre dans les mois qui viennent la négociation. Merci.
Merci beaucoup. Je crois que ça nous permet d'introduire et de focaliser sur ce qui va être l'objet de l'intervention suivante qui est enregistrée par un interview de Jean Tirole, qui a fait un rapport dans le cadre du Conseil d'analyse économique pour le Premier ministre sur l'architecture de la négociation internationale et dont le cœur du sujet est bien la question posée par Laurent, à savoir comment mettre les pays de l'annexe 2 dans la convention, comment éviter que les gens, au fond, qui ne s'engagent pas, ce qui a été le cas des États-Unis, se trouvent dans un avantage dans les négociations futures, et donc comment arriver à créer un cadre. Juste pendant que se met en place la vidéo, le point de vue de Jean Tirole est un point de vue d'économiste qui ne cherche ni à ne pas appeler un chat, ni à plaire, ni à nuire, ni rien du tout, qui cherche à donner un éclairage économique sur ces négociations, et donc j'attire votre attention sur le fait que c'est comme ça qu'il faut le voir, donc vous allez voir, il peut appeler un chat un chat, mais je pense que c'est important, si on veut avancer, que les problèmes soient correctement posés. Donc il faut qu'on envoie la vidéo de Jean Tirole maintenant.
Tirole.